Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, après ces consultations, c'est vous, auditeur d'Europe 1, qui vient éclairer, qui vient chouchouter. C'est bien sûr le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à un sujet un peu culotté, un peu tabou peut-être même. Nous allons tout vous dire sur le cerveau au masculin. Et oui, n'en déplaise à certains, il y a bien des différences entre les deux sexes, par exemple anatomiques, dans notre organe roi, le cerveau. Alors attention, différences qui ne rendent pas l'un supérieur à l'autre, mais qui peuvent peut-être expliquer pourquoi notamment certains comportements sont plus masculins ou féminin. Pour parler de ce sujet brûlant, nous aurons en ligne le neuro-endocrinologue Jacques Balthazar. Il est l'auteur du livre « Quand le cerveau devient masculin » chez Humaine Science. Ensuite, dans notre chronique « Les bobos du quotidien », on va parler troubles de la digestion, intoxication alimentaire. Attention, elles sont fréquentes en période de fin d'année. Le docteur Jimmy Mohamed nous donnera tous ses meilleurs conseils. Et puis, comme tous les jours, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme qui trouve que les hommes sont plus coincés aujourd'hui et regrette qu'il ne fasse, en tout cas qu'il fasse moins souvent le premier pas.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 ou que vous nous envoyez d'ailleurs sur les réseaux sociaux bien souvent. Et donc on va démarrer par cette question que nous a envoyée Marjorie, une auditrice fidèle qu'on salue. Elle nous écrit la chose suivante. Jimmy, écoutez bien, mes beaux-fils de 15 et 19 ans n'arrêtent pas de se faire craquer les doigts. Je ne supporte pas ça. Bien moi non plus Marjorie, vous avez bien raison. Je leur dis qu'ils finiront vous rigoler parce que donc on va vous faire un petit, une petite confidence. Jimmy craque souvent des doigts et ça m'énerve au plus haut point. Donc Marjorie demande, honnêtement, je voudrais savoir s'il peut réellement y avoir des conséquences à faire ça sans arrêt. C'est une très bonne question, Jimmy, parce que comme vous m'agacez beaucoup avec ce toc, je ne sais pas comment on appelle ça, est-ce que ça peut avoir des conséquences réelles?
Alors tout d'abord, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on craque des doigts? Qu'est-ce qui se passe quand on craque des doigts? Alors, c'est d'augmenter l'espace entre les articulations et ça va permettre d'éclater des petites bulles de gaz qui se forment et qui vont du coup libérer ce bruit qu'on va entendre. Et évidemment que si vous recraquez vos doigts juste après, par exemple, eh bien ça ne marche pas, puisqu'il faut que le gaz se réaccumule de nouveau.
D'en parler, ça me fait des petits frissons, je déteste ce bruit.
C'est un peu comme un petit ballon que vous allez claquer et qu'il va falloir du temps avant que ça recommence. Alors, en termes de conséquences, vous ne risquez absolument rien. On peut continuer de craquer ses doigts.
J'aurais adoré que vous disiez l'inverse.
Et pour ça, je vais vous parler d'une étude incroyable. C'est un médecin qui l'a mené lui-même pendant toute sa vie.
Oh là là.
Il s'est amusé à se craquer uniquement les doigts d'une main.
C'est vous, c'est ce
non,
médecin
non j'aurais pu, moi, c'est, moi j'aurais, je fais les deux.
Non, parce que vous le faites tous les jours quand même.
Oui, mais lui, il a fait qu'une seule main. D'accord. Et il a décidé de comparer cette main à l'autre avec des radios qu'il a fait régulièrement, année après année. Eh bien, ses mains vont très bien. Les mains qui ont craqué.
Pas plus et même d'arthrose, pas plus de...
Absolument pas plus d'arthrose, pas plus de pathologie. Et ça a été confirmé par des études de grande ampleur, des vraies études qui montrent qu'on peut se craquer les doigts. Alors, il y a une petite étude, une petite nuance. Dans les années 90, une étude montrait que ceux qui se craquaient les doigts avaient un petit peu moins de force de préhension au niveau de la main. Mais ils sont en pleine forme.
Une petite raison.
Et donc, on peut continuer. On y va, on craque ses doigts. Et attention, me bourrez.
Jimmy, pourquoi ce besoin de le faire pour le coup? Ça, je me demande, c'est quoi? C'est un trouble du comportement? Qu'est-ce que c'est?
On va dire que ça peut devenir un tic. Ouais. Pas forcément un toc, parce que ce n'est pas forcément
obsessionnel. Vous qui le faites tout le temps, pourquoi vous faites ça?
C'est une habitude, c'est un truc un peu psychologique, mais c'est un peu comme ceux qui vont se ronger les ongles. C'est pas pathologique, si ça fait du bien, pourquoi pas. Et en tout cas, si vous demandez aux personnes d'arrêter, ce n'est pas en utilisant l'argument que ça va entraîner des lésions sur les articulations, ça ne marchera pas malheureusement.
Bon, très bien, bah tant pis. Merci beaucoup Jimmy. Tout de suite, on va passer à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est Michael qui nous l'a posée sur notre répondeur, le 3921. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai une hernie inguinale et je voulais savoir si obligatoirement ça devient une hernie étranglée ou si je peux rester comme ça indéfiniment, sachant que j'ai déjà été opéré sous stéréoscopie mais que je n'ai pas d'anapathie. Merci à vous.
Alors Jimmy, d'abord peut-être un rappel, c'est quoi une hernie inguinale?
Alors une hernie, c'est le passage d'un organe. Le plus souvent, c'est l'intestin grêle, qui va passer au travers d'un orifice qui est présent naturellement. Là, il parle d'hernie inguinale. L'hernie inguinale, elle se situe juste au-dessus du pli de l'aine, mais vous pouvez en avoir ailleurs. On appelle ça aussi une hernie crurale. C'est juste en dessous et parfois elle est ombilicale, c'est-à-dire au niveau du nombril. C'est quelque chose qui ne fait pas mal. En gros, vous avez une boule qui va sortir, une petite tuméfaction.
J'allais vous dire, c'est douloureux, c'est embêtant.
Non, elle a deux particularités. Ouais. La première, c'est qu'elle est parfaitement indolore. Et la deuxième, c'est qu'elle est réductible. Si vous appuyez dessus, et ben, voilà, l'intestin re-rentre à l'intérieur.
D'accord.
Et puis si vous vous mettez à tousser ou à être debout, et là ça ressort. C'est la hernie, ça fait pas mal. Et on trouve ça aussi chez les enfants. Une petite hernie inguinale, en général, ombilicale, pardon, au niveau du nombril, au bout de 3, 4, 5 ans, ça disparaît tout seul.
D'accord. Et Mickaël, dans sa question, évoque aussi l'hernie étranglée. Alors là, de quoi s'agit-il ?
Alors, l'hernie étranglée, c'est le fait que cette hernie, tout d'un coup, donc c'est du tube digestif qui va sortir, et puis tout d'un coup, le tube digestif va un peu se tourner sur lui-même, s'étrangler et entraîner un risque d'occlusion intestinale. Le problème, c'est quand vous avez une hernie, on est incapable de prédire qui va faire un étranglement et qui va avoir une occlusion. Et donc, le plus souvent, on propose d'opérer, c'est-à-dire de remonter le tube digestif, de mettre une petite plaque pour éviter que ce tube digestif ne ressorte, pour éviter la complication qui est l'étranglement qui s'opère en urgence avec forcément une morbidité et donc une hospitalisation plus importante.
Et donc, pour répondre tranquillement donc à la question de Mickaël, est-ce que le risque d'avoir, est-ce que quand on a une hernie inguinale, il y a vraiment un risque que ça devienne une hernie étranglée ?
Eh bien, ça, comme je le dis, on ne peut absolument pas le prévoir. En tout cas, on sait qu'il y a des facteurs de risque d'avoir cette hernie, le fait de porter des charges lourdes, d'être constipé, la grossesse, d'avoir des difficultés à uriner quand vous avez une grosse prostate. Tout ça, c'est des facteurs de risque d'hernie. En revanche, pour l'étranglement, eh bien, faut pas attendre. Il faut aller voir le chirurgien et c'est lui qui vous dira quand est-ce que vous êtes pris en charge.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Mickaël qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité en ligne avec nous pour le dossier du jour. C'est vous Jacques Balthazar, bonjour.
Oui, bonjour à vous et merci pour l'invitation.
Et avec plaisir, vous êtes neuro-endocrinologue et auteur du livre « Quand le cerveau devient masculin » chez Humaine Science. Alors c'est un sujet un peu tabou, affirmer qu'il y aurait des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes, mais surtout pour les Français en particulier, vous l'écrivez dès le début de votre bouquin. D'ailleurs, pour le prouver, cette gêne française sur le sujet, il suffit, vous dites, de faire une petite recherche sur Internet.
Oui, alors en fait, j'ai fait une recherche sur Internet donc en utilisant les mots cerveau et homme-femme. Et on retrouve alors en anglais 260 millions de références où on a une discussion équilibrée entre les tenants des différences et les opposants. Alors qu'en France, on ne retrouve que 900 000 références au lieu de 260 millions. Et on tombe tout de suite sur les écrits de personnes qui sont viscéralement opposées à l'existence de ces différences.
Alors justement, comment est-ce qu'on explique le fait qu'évoquer un cerveau masculin ou féminin soit si problématique pour les Français ?
Alors, il y a plusieurs raisons potentielles. La fascination pour la maxime « les hommes naissent libres et égaux ». Alors, libres, ben, si on dit qu'il y a des différences dans les cerveaux et qu'on dit qu'elles sont déterminées biologiquement, ça vous enlève un petit peu de votre liberté individuelle et ça fait peur aux gens. L'aspect égalité, ben, il y a les gens qui pensent qu'en étant égaux, on doit être identique. Et égalité ne veut pas dire identique, ni supérieur ni inférieur, simplement différent. Il y a le fait que les universités françaises et l'intelligentsia en général est un peu à gauche et la gauche n'aime pas beaucoup les idées de déterminisme. Enfin, on peut discuter de ça très longtemps, mais moi, je ne suis pas sociologue, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Moi.
Alors justement, Monsieur Balthazar, juste pour apaiser nos auditeurs déjà contrariés peut-être par le thème de notre émission du jour, on va tout de suite les rassurer. Il ne s'agira pas de dire dans cette émission avec vous que le cerveau masculin ou féminin serait supérieur ou inférieur l'un à l'autre. Ce n'est pas ça qu'on démontre.
Non, non, absolument pas. Ils sont différents et encore, ils ne sont différents qu'à la moyenne. Donc ça veut donc dire que vous aurez toujours dans des cerveaux masculins des cerveaux qui sont identiques à des féminins et inversement. Mais ça ne veut pas dire non plus que ces différences moyennes n'existent pas, parce que par exemple, il y a un recouvrement entre les températures qui existent à Paris et à Marseille, mais les climats sont néanmoins différents et on peut cultiver des oranges à Marseille et pas à Paris. Donc c'est les différences moyennes, on ne peut jamais identifier le sexe d'une personne à partir de son cerveau, mais si on fait une étude statistique, on va retrouver des différences qui sont assez reproductibles.
Alors justement, Jacques Balthazar, on va s'intéresser à la biologie de nos cerveaux, car oui, la culture et l'éducation contribuent à l'existence d'un cerveau masculin, d'une psyché masculine, mais la biologie aussi.
En fait, je n'essaie pas à aucun point de nier que la culture, l'éducation qui est différenciée pour les petits garçons et les petites filles, n'ont une influence extraordinaire sur leur développement du cerveau et du comportement. Mais tout ça s'ajoute à quelque chose qui est biologique au départ et qui est partiellement différencié, et opposer les uns aux autres n'a pas vraiment de sens. C'est une complémentarité entre les effets de ce qu'on appelle la nature et nurture en anglais, donc la nature et la culture, si on veut, en français.
Alors, le cerveau masculin existe-t-il ? C'est une question qui attire la curiosité des hommes depuis bien longtemps. Déjà, à la Renaissance, je crois, c'était le cas. Et pendant très longtemps, on a dit que non, en tout cas du point de vue anatomique, hein, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Jusqu'en fait 1976, donc 76 pour vous, on n'avait retrouvé aucune différence anatomique importante entre les cerveaux des hommes et des femmes d'une part, mais aussi des animaux mâles et femelles d'un autre côté. Et puis ce qui a tout changé en fait, c'est des études réalisées à la Rockefeller University par Fernando Nottebohm, qui était en train d'étudier les structures du champ, les structures qui contrôlent le champ chez le canari et chez un petit passereau qu'on appelle le diamant mandarin. Alors il a identifié dans le cerveau des structures cérébrales qui étaient responsables de ces comportements de champ. Et alors avec un de ses étudiants à l'époque qui s'appelait Art Arnold, ils ont eu la curiosité de regarder ce qui se passait chez mâles et femelles. Et chez femelles, on s'est rendu compte que ces structures étaient 3 à 5 fois plus petites que chez les mâles. C'est une différence qu'on pouvait voir à l'œil nu en regardant des coupes microscopiques à contre-jour. Donc c'était extrêmement important. Et puis donc, à partir de là, tout a démarré, évidemment. Ça cassait un dogme relativement important.
Donc un dogme cassé grâce à un canari, quand même. Hein,
c'est assez surprenant.
Et donc, à partir justement de ces découvertes chez les oiseaux, puis les reptiles, les mammifères, dans les années 80, on a finalement découvert que chez les humains aussi, finalement, il y avait des différences anatomiques dans nos cerveaux masculins ou féminins. Lesquelles principales ?
À partir du moment où cette différence a été mise en évidence chez le canari, il y a d'autres chercheurs qui sont intéressés à ça. On a retrouvé des différences chez le rat. Et puis alors Dick Swaab à l'université d'Amsterdam a retrouvé une première différence qui concernait une zone qui est essentiellement liée à la reproduction, en tout cas chez les animaux, qui est ce qu'on appelle l'aire préoptique, où il trouvait une structure nerveuse 3 fois plus grande chez l'homme que chez la femme. Et puis, il y a eu d'autres différences. Maintenant, la liste est extrêmement longue et c'est un topic pour spécialistes, évidemment. Mais il y a une quinzaine de structures, au moins, qui ont été montrées être différentes entre garçons et filles, entre hommes et femmes.
Ouais. Et Jacques Balthazar, l'essor de l'imagerie aussi a permis par la suite de voir qu'il y avait des différences morphologiques entre nos cerveaux masculins et féminins. Il y en a beaucoup plus qu'on le pensait. Ces différences, elles sont présentes vraiment depuis la naissance, hein, c'est ça ?
Oui, absolument. Parce qu'au départ, évidemment, toutes ces études anatomiques devaient se faire sur des cerveaux de personnes décédées, des études post-mortem, mais à partir du moment où on a eu l'imagerie médicale, on a pu analyser les cerveaux des hommes et des femmes, des garçons et des filles, etc. Et on s'est rendu compte que dès la naissance, le volume intracrânien est 6% plus grand chez les garçons. Donc tout ça a permis de faire une liste de différences extrêmement importantes. Alors on dit souvent évidemment que le plus grand cerveau des hommes est lié à leur plus grande taille. Mm-hmm. Mais en fait, même si on corrige par la taille, donc si on prend des tailles équivalentes entre hommes et femmes, on retrouve ces différences. Et par ailleurs, à la naissance, la différence de taille entre garçons et filles est minimale et néanmoins, il y a une différence dans la taille du cerveau.
Très bien, Jacques Balthazar. Et on sait que la taille, ça compte pas toujours. Alors on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est vous, Jacques Balthazar. Vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes neuro-endocrinologue et l'auteur du livre « Quand le cerveau devient masculin » chez Humaine Science. Alors, on a vu juste avant qu'il existait des différences anatomiques entre le cerveau masculin et féminin. Mais résultat, d'un point de vue fonctionnel, est-ce que ces différences finalement font que nous ne fonctionnons pas, hommes et femmes, de la même façon ?
Bien évidemment, le cerveau est à la base de tous nos comportements, de toute notre physiologie, de toutes nos attitudes, de tous nos états cognitifs. Donc il est bien entendu que ces différences anatomiques vont avoir des conséquences au niveau fonctionnel, en tenant compte toutefois à nouveau que ces différences ne sont que des différences à la moyenne. Donc vous ne pourrez pas identifier le sexe d'une personne à partir de son comportement, mais si vous étudiez le comportement de différents groupes d'hommes et de femmes, vous trouverez des différences systématiques qui seront statistiquement significatives et reproductibles.
Jimmy, je suis sûr qu'il a un cerveau un peu féminin parce qu'il est très sensible. Hein, donc on va en parler.
Non, on a tous un peu de féminin, un peu de masculin en soi, hein, donc ça c'est clair.
Et si on regarde du côté de certaines pathologies neurologiques, des maladies du système nerveux central par exemple, comme le syndrome de Gilles de la Tourette, l'autisme ou même la dépression, on voit bien qu'elles sont très différenciées selon les sexes.
Oui, à peu près toutes les maladies du système nerveux sont différenciées et affectent soit plus les hommes, soit plus les femmes. Donc Gilles de la Tourette, c'est 9 hommes pour une femme essentiellement.
Ah oui, quand même.
Si vous prenez le syndrome de Rett, qui est une autre pathologie du système nerveux, c'est essentiellement des femmes. Et puis vous avez tous les intermédiaires, mais tout est relativement différencié. Il n'y a jamais du 50-50%.
Et comment on l'explique, du coup ? C'est quoi l'hypothèse, au moins ?
Alors, l'hypothèse, ça va dépendre de la maladie spécifique, évidemment. Et pour l'expliquer, il faut entrer dans le détail des mécanismes qui déclenchent ces maladies. Or, en fait, très souvent, on ne les connaît pas. Parfois, certaines maladies sont essentiellement génétiques. C'est le cas du syndrome de Rett, par exemple. Mais à ce moment-là, c'est une différence génétique entre hommes et femmes qui va l'expliquer. Mais il y a beaucoup de maladies. Le Parkinson affecte préférentiellement les hommes, un petit peu plus les hommes. Mais alors, c'est une dégénérescence du système dopaminergique dont on ne comprend pas très bien encore à l'heure actuelle l'origine. Donc, on n'a pas l'explication finale de tout, évidemment. Mais il est clair que ces différences de maladies sont des différences qui sont d'origine biologique et qui ne reflètent pas évidemment une éducation différentielle des petits garçons et des petites filles.
Alors, on a fait passer des tests cognitifs à des hommes et des femmes dans des études. Et quelles sont les principales différences qu'on a pu établir?
Alors, ces différences cognitives sont en général d'une amplitude assez faible, mais celle qui est la plus reproductible, c'est probablement la différence, ce qu'on appelle les rotations mentales. Donc, ça veut dire qu'on vous donne un objet qui a été tourné de 15, 30, 60, 90, 120 degrés. Et on vous donne deux objets miroirs qui ont été tournés à des angles différents et on vous demande à quel objet miroir les objets
Moi, je
qui ont
suis nulle
été
à ça, j'en suis sûre. Hein. C'est un truc de mec, ça, non?
Et c'est un truc de mec, oui. Les hommes font ça un peu plus rapidement et avec un peu moins d'erreurs que les femmes. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne savent pas le faire. Alors, c'est une tâche qu'on va demander aux astronautes de faire, par exemple. Ben, il y a des femmes qui sont tout à fait capables d'être
Bien
astronautes,
sûr.
évidemment.
Bon, les hommes meilleurs en rotation mentale, mais il ne faut pas se réjouir trop vite, hein, car tout ça, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Vous allez nous confirmer. La preuve même, je crois, vous écrivez dans votre livre que les pigeons sont meilleurs que les hommes sur ce genre de test.
Absolument. Les
ça va les
pigeons,
calmer direct.
Ils sont 10 fois meilleurs que les hommes et les femmes. Et ça reflète évidemment leur biologie. Bon, les pigeons, ils vivent dans un espace tridimensionnel. Ils survolent des régions. Ils doivent les approcher par des angles différents, etc. Donc, ils savent dans leur tête faire des rotations mentales pour retrouver la région de leur pigeonnier. Nous, on vit dans un monde qui est bidimensionnel. Et du coup, on est un peu moins doués. Les femmes sont encore un peu moins douées que les hommes, mais elles sont plus douées pour les tâches langagières, par exemple.
Ouais. Néanmoins, beaucoup diront que les différences de comportement entre hommes et femmes sont surtout liées à la société, à notre éducation, aux jouets qui peuvent être très genrés, souvent auxquels on nous expose tout petit. Mais dans votre livre, vous nous racontez une expérience avec des cygnes qui prouve que ce n'est pas aussi simple.
Oui, une expérience avec des singes, oui. En fait, c'est assez marrant, mais on voit évidemment que quand on prend les petits-enfants, qu'on les introduit dans une pièce à l'âge de 2-3 ans, dans une pièce qui contient 20 ou 30 jouets, certains de garçons, certains de filles, ben les garçons prennent les jouets de garçons, les filles prennent les jouets de filles. Ceci, alors on s'est dit évidemment, c'est l'éducation, c'est parce qu'on leur a toujours donné ça. Mais on a fait le même test avec des singes et ça a été fait avec deux espèces différentes dans deux laboratoires différents. Et on retrouve en fait cette différence sexuelle, c'est-à-dire que les mâles chez les singes là vont prendre les objets mobiles, les ballons, les voitures, alors que les filles prendront plutôt les poupées et les peluches.
C'est fou ça.
Ce qui suggère évidemment que cette différence est beaucoup plus ancienne et a quelque chose de biologique. C'est soutenu aussi par l'idée que les filles qui ont été exposées à trop de testostérone pendant la vie embryonnaire, on en reparlera peut-être plus tard, choisissent également préférentiellement des jouets de garçons.
Ah oui, mais alors ça veut dire que même si les petits singes préfèrent les petites voitures, c'est qu'il y a quelque chose de culturel, de biologique un peu dans nous.
Voilà, alors ce n'est pas que culturel, mais c'est aussi culturel, parce que cette petite différence qu'on retrouve à la moyenne va s'amplifier suite à l'éducation genrée qu'on va donner aux petits garçons et aux petites filles, évidemment.
Et d'ailleurs, justement, il y a une expérience chez les bébés qui montre que si les femmes ont plus d'empathie que les hommes, ce n'est pas qu'une question de culture, d'influence sociétale, ça serait bien un truc qu'on a dès la naissance, là aussi, peut-être en lien avec la nature de notre cerveau féminin, vous dites.
Oui, ben, disons que ce sont des études ça, qui ont été réalisées par le docteur Simon Baron Cohen à l'université de Cambridge en Angleterre. Et il a montré donc que les femmes en moyenne avaient plus d'empathie et les hommes en moyenne avaient plus de systématisation, c'est-à-dire tirer des règles à partir du monde qui les environne. Et il a pu corréler ça. Il a pu montrer d'abord que ça se produisait relativement tôt dans la vie, vers 4, 5, 6 ans. Mm-hmm. Mais surtout, il a pu corréler ça au taux de testostérone embryonnaire qui avait été mesuré chez ces individus pendant la grossesse, donc mesuré 4, 5 années avant. Et donc, ça suggère qu'il y a une influence biologique sur ces différences d'empathie et de systématisation.
Jimmy ?
Et puis, hommes et femmes, nous n'utilisons pas non plus les mêmes zones du cerveau pour les mêmes tests ou les mêmes tâches. Et pour illustrer ça, votre collègue Charlotte Cornil propose une expérience très éclairante à ses étudiants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, en fait, Charlotte Cornil, donc, est la chercheuse qui a repris le laboratoire que je dirigeais au moment où j'ai pris ma pension. Enfin, je suis passé à l'émérita. Et en fait, elle a eu l'idée de faire l'expérience suivante. Quand elle donnait le premier cours de l'année à des classes d'étudiants relativement importantes et que ce cours se donnait dans un auditoire qui n'était pas connu des étudiants, ben elle leur a demandé de répondre par écrit à la question suivante : comment avez-vous trouvé l'auditoire ? C'est pas une expérience qui a une valeur scientifique pure, hein, mais c'est anecdotique et c'est intéressant. Systématiquement, les filles s'étaient orientées en prenant des détails de l'environnement proche, c'est-à-dire tourner à gauche après la machine à distribution de coca et puis monter l'escalier rouge, etc. Alors que les garçons avaient plutôt navigué vers l'est pendant 100 mètres et puis tourné à 90 degrés, des choses comme ça. Donc en fait, on utilise des informations différentes dans l'environnement pour réaliser la même tâche. Et les deux sexes y arrivent parfaitement, mais de façon un peu différente. Et à nouveau, si on fait des expériences avec des rats, ben on se rendra compte que les mâles seront un tout petit peu meilleurs en orientation, mais ce n'est pas des différences énormes.
Très bien. Jacques Balthazar, c'est passionnant. On va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Jacques Balthazar, vous êtes en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes neuro-endocrinologue et l'auteur du livre « Quand le cerveau devient masculin » chez Humaine Science. Alors à présent, on va détailler avec vous un peu plus les mécanismes biologiques qui font qu'un cerveau est masculin ou féminin. Et vous dites que c'est prouvé, ce sont les hormones qui expliquent en grande partie cette différenciation, plus particulièrement les hormones stéroïdes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce que c'est déjà ?
Oui, alors les hormones stéroïdes, donc, ce sont des hormones qui sont synthétisées par ce qu'on appelle les gonades, c'est-à-dire les testicules chez l'homme et l'ovaire chez les ovaires chez la femme, et qui contrôlent la reproduction. Alors ces hormones, elles contrôlent la reproduction, mais elles la contrôlent de deux façons. D'une part, en activant des comportements à l'âge adulte, mais elles ont aussi, on l'a découvert chez l'animal dans les fin des années 50, elles ont aussi ce qu'on appelle les effets organisateurs du cerveau, c'est-à-dire qu'elles, sous l'influence d'une hormone, en particulier la testostérone chez l'homme, ces hormones vont différencier le cerveau et elles vont avoir à ce niveau des effets qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été exposé à cette testostérone, votre cerveau va être un cerveau masculin, ce qui se verra par des structures morphologiques comme on en a parlé chez l'homme, mais on a pu étudier ça évidemment très en détail chez l'animal et montrer qu'on pouvait créer un cerveau masculin chez une femelle en l'exposant à la testostérone et inversement créer un cerveau féminin, donc femelle, chez un mâle en empêchant cette action de la testostérone.
Mais vous dites aussi que la seule présence des hormones ne suffit pas à déterminer tel ou tel comportement, il faut aussi y ajouter un autre facteur, celui du sexe fonctionnel du cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça le plus simplement possible ?
Oui, donc ça fait référence à ce que je viens de vous dire. Donc vous avez une organisation du cerveau qui en fait un cerveau mâle ou un cerveau femelle. Alors moi j'ai étudié ça très en détail chez les animaux qui sont des cailles, donc on est très loin de l'homme.
La caille japonaise, hein, je crois précisément.
Des cailles japonaises, c'est bien ça. Oui. Mais alors on se rend compte donc, que si vous mettez la testostérone à une femelle, ben cette femelle ne va jamais montrer les comportements de type mâle. Alors, et vous mettez cette testostérone à des doses qui sont actives chez le mâle. Donc ce n'est pas tellement l'hormone. La présence de l'hormone est nécessaire à l'âge adulte, mais elle ne sait agir que sur un cerveau qui a été présensibilisé à cette action. Donc vous avez l'organisation par les hormones pendant la période qui est la fin de la période embryonnaire ou le début de la vie postnatale, la première année de vie postnatale essentiellement. Et puis vous avez une activation, un effet des hormones à l'âge adulte. Alors ces choses, on les a démontrées très en détail chez l'animal. Chez l'homme, évidemment, on ne peut pas faire les expériences correspondantes, donc on ne peut pas traiter des embryons la testostérone ou les castrer ou faire des choses comme ça. Mais on a des tas de signes qui nous démontrent que ces effets d'hormones sont toujours bien présents chez l'homme et qui jouent également un rôle dans la différenciation du cerveau et du comportement.
Alors justement, on va revenir au tout début de cette différenciation. Au départ, notre cerveau, quand on est un tout petit embryon, il est en fait de sexe neutre, hein, c'est ça, ça se masculinise ou féminise, vous allez nous le dire, à partir de quand? Et les hormones, elles jouent un rôle là-dedans, donc.
Voilà, donc en fait, le sexe féminin ou le sexe femelle chez les mammifères est ce qu'on appelle le sexe neutre, c'est-à-dire c'est le sexe qui se développe grosso modo sans influence hormonale. Alors sur ça vont agir les hormones qui vont donc masculiniser ce cerveau qui est féminin. Donc le sexe neutre, c'est le sexe de base, c'est le sexe qu'on appelle non hormonal. On l'a même appelé par défaut d'ailleurs, mais ça prête un peu à conséquence parce qu'évidemment le cerveau féminin n'est pas plein de défauts, mais il est par défaut au niveau de son induction hormonale. Et alors vous ajoutez là-dessus de la testostérone et vous faites un cerveau masculin, vous le masculinisez. Et vous le déféminisez, donc il perd la capacité à montrer des choses qui sont féminines, comme l'ovulation par exemple, à durer une ovulation, et vous acquérez la capacité à montrer des comportements de type masculin. Quoi.
Et donc ça veut dire que le cerveau fondamental, c'est un cerveau féminin,
et
que le cerveau masculin, lui, n'en est qu'une forme de dérivée une femelle qui serait modifiée, si on peut dire ça entre
guillemets. Voilà, les hommes sont des femelles modifiées. Très bien, moi j'adore.
Voilà, donc l'histoire évidemment de l'Ancien Testament avec la côte d'Adam qu'on prend.
Ben, c'est tout l'inverse
femme,
en fait.
Pour faire une femme, ben, c'est en fait l'inverse. On prend une femme pour faire un homme.
Et d'ailleurs, c'est pas vraiment, je crois, la testostérone qui est l'hormone qui déclenche la masculinisation, justement. C'est l'estradiol, parce que cette testostérone, en fait, elle va se transformer, c'est ça ?
Oui, oui, alors ça, c'est des études assez compliquées. Moi, j'ai passé essentiellement les 20 dernières années de ma vie à étudier
ça. Oui,
donc
on va pas comprendre ça en une minute.
La testostérone, en fait, dans le cerveau, se transforme en hormone femelle, donc qui est l'estradiol. Et on sait, chez le rat, il est très clair que c'est cet estradiol qui va avoir l'effet masculinisant. Mais chez l'homme, les données sont beaucoup moins claires. Il faut bien se rendre compte que chez l'homme, la testostérone elle-même a l'air de jouer un rôle relativement important. Mais si vous reprenez déjà des singes, par exemple, chez les singes, la testostérone joue un rôle important, l'estradiol étant un partenaire partiel au niveau de l'induction des phénomènes.
Et puis si le cerveau masculin existe, c'est aussi dans un effet peut-être un peu moindre, à cause aussi des gènes ?
Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir depuis une quinzaine d'années maintenant. On s'est rendu compte, en fait, c'est de nouveau à partir des oiseaux qu'on a découvert ça. On a trouvé un jour dans une animalerie à Rockefeller de nouveau, donc à New York, un diamant mandarin, donc c'est ces petits oiseaux qui ont des joues rouges. Et ce diamant mandarin, il était mâle d'un côté et femelle de l'autre. Donc il avait une joue rouge d'un côté, il ne l'avait pas de l'autre côté.
Vraiment comme coupé en deux, hein, on est d'accord. Hein, un corps homme d'un côté, enfin mâle et un corps femelle de l'autre, hein, c'est ça ?
Absolument. Coupé en deux par une ligne médiane, il était mâle d'un côté et femelle de l'autre. Alors évidemment, ça posait des questions parce que si ce sont les hormones qui définissent le sexe, ben, les hormones, elles sont les mêmes des deux côtés du cerveau, évidemment. Et donc, on a étudié cet oiseau, on a étudié son comportement, puis on a étudié son cerveau, et on s'est rendu compte que du côté mâle, ben, le cerveau, il était effectivement mâle. Il avait les noyaux de contrôle du champ, là, dont on a déjà parlé, qui étaient un peu plus développés, et moins du côté femelle, etc. Et ça ne pouvait s'expliquer que par une expression des gènes différentes. Mmh. Et donc, on en est venu à penser que les gènes eux-mêmes, indépendamment du fait qu'ils induisent la formation d'un testicule et la sécrétion de testostérone, les gènes eux-mêmes pouvaient directement influencer les différences entre mâle et femelle et entre homme et femme.
Donc on a appris beaucoup de choses en sacrifiant un petit oiseau très rare pour la science. Alors.
J'en ai obtenu un autre il y a un an dans mon laboratoire que je suis en train d'étudier en fait.
Mais bon, très bien. Une histoire. Deux oiseaux très rares alors. Et voilà. Ce cerveau masculin, Jacques Balthazar, il l'est depuis la grossesse, vous l'avez dit, ça se fait au début, au cours du premier trimestre. Ensuite, comment ça va se passer au cours de notre vie ? Il va continuer d'évoluer ce cerveau masculin ou féminin ? Comment dans les grandes lignes ? Jusqu'à l'adolescence d'abord, qu'est-ce qu'il caractérise par rapport au cerveau féminin, le masculin justement ?
Mais il est clair évidemment qu'à la naissance, le cerveau n'est pas formé, il n'est pas fini, donc les connexions doivent encore s'établir, la taille des neurones va encore grandir, etc. Et ça va se faire en moyenne avec des vitesses qui vont être un peu différentes. Il est bien connu que les filles sont matures un peu plus tôt, elles ont leur puberté un peu plus tôt. Oui. Et en fait, ça correspond à des différences dans le cerveau. En fait, il y a à peu près 2 ans d'écart entre le moment où la substance grise du cerveau, c'est-à-dire la masse de neurones, atteint son pic de volume chez les garçons et chez les filles sont plus précoces.
C'est pour
près
ça qu'au début du collège, ils sont des gros bébés encore, les garçons, alors que les filles sont un peu plus, on a l'impression, matures.
Oui,
après, quoi.
Si on veut schématiser, oui, c'est pas des gros bébés, mais ils sont un peu sous-développés, ils sont un peu en retard dans leur développement. Ils ont 2 ans de retard de développement cérébral. Et ça se voit souvent au niveau comportemental, d'ailleurs, les filles étant plus matures à ce moment-là, quoi.
Vous comprenez beaucoup de choses, Jimmy, là, j'ai l'impression. Hein.
Oui,
ça vous ouvre les yeux,
oui,
enfin.
Je n'ai pas beaucoup évolué, je suis resté bloqué dans l'adolescence. Alors, une question quand même qui reste très importante. Lequel de ces deux cerveaux va le plus vite s'user avec l'âge ? Est-ce qu'on a une idée de ça ? Est-ce que le cerveau masculin va vieillir plus rapidement que le cerveau féminin ?
Alors, on peut craindre effectivement que le cerveau masculin, enfin, on peut craindre, nous les hommes, que le cerveau masculin s'use un peu plus vite.
On est le premier et le dernier cerveau, je crois, alors.
Voilà, donc voilà, on arrive plus tard à la maturité et puis on a tendance à perdre un peu plus de neurones et de connexions avec l'âge que les femmes. Maintenant, ce sont des différences qui sont relativement mineures et qui sont toujours à la moyenne. Donc, vous aurez des hommes qui vivront avec un cerveau parfaitement équilibré jusqu'à 90 ans et inversement. Mais en moyenne, le cerveau masculin vieillit un peu plus vite, ce qui est assez surprenant parce qu'au niveau hormonal, évidemment, les femmes connaissent une chute hormonale beaucoup plus importante à la ménopause.
Alors oui,
j'allais vous
le dire, avec cette ménopause quand même qui a des conséquences hein, sur l'organisme, y compris probablement sur le cerveau, on aurait pu s'attendre à l'inverse, à ce que le cerveau féminin soit plus affecté par l'âge, et ce n'est pas le cas donc.
Ce n'est pas ça qu'on trouve effectivement. Ceci étant, évidemment, il y a certaines pathologies de la vieillesse qui vont affecter plus fréquemment les femmes que les hommes. C'est le cas notamment de la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui sera à prédominance féminine, alors que le Parkinson sera à prédominance masculine. Donc, tout ce qu'on dit ici des vitesses de vieillissement, c'est bien entendu des choses qui sont à la moyenne et chaque pathologie va avoir son décours temporel qui sera un peu différent, quoi.
Est-ce que dans le futur, on peut espérer tirer de ces informations des vertus pour des traitements, des pistes thérapeutiques, ou ça reste juste une façon de comprendre notre fonctionnement?
Il y a l'aspect connaissance fondamentale, évidemment, qui est importante, mais il y a aussi des conséquences pratiques, parce qu'à partir du moment où la physiologie des hommes et des femmes est différente, il faudrait qu'il y ait une médecine qui soit aussi sexuellement
Eh oui, bien
différenciée
sûr.
et qu'on traite les hommes et les femmes différemment. Bon, on n'en a pas parlé, mais notre physiologie hépatique et la vitesse à laquelle nous métabolisons les médicaments, par exemple, est différente chez hommes et femmes. Les hommes métabolisant certaines choses plus vite que les femmes. Pour l'alcool, c'est bien connu, mais c'est bien connu aussi pour des psychotropes et pour des pilules du sommeil. Et donc, si vous donnez la même dose de somnifère à un homme et à une femme, l'homme, le lendemain matin, il est parfaitement éveillé, et la femme, elle conduit en état de semi-sommeil et elle prend donc des risques. Donc, les doses doivent être adaptées. Et c'est vrai pour ça et pour des tas d'autres aspects de la médecine qui devraient être différenciés pour hommes et femmes.
Très bien, merci beaucoup Jacques Balthazar d'avoir été avec nous pour cet éclairage très intéressant sur les différences entre cerveau masculin et féminin. Et oui, c'est pas que de la polémique du tout, hein, ce sujet, c'était très scientifique aujourd'hui. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Quand le cerveau devient masculin » chez Humaine Science. Merci encore.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors, il est temps à présent de passer au bobo du quotidien. Et aujourd'hui, pour lancer cette séquence, on va commencer par écouter la question qui nous a été laissée par Geoffrey. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question à vous poser. Comment éviter d'être malade à Noël? Mais je parle du côté digestif, hein, parce que l'an dernier, la langouste de mon beau-père m'a rendu malade toute la nuit. Enfin bref, comment éviter les intoxications et surtout comment les soigner si ça nous arrive? Merci pour votre réponse. À bientôt.
Alors Jimmy, d'abord un constat peut-être à des indigestions, voire même des intoxications. C'est clairement assez fréquent pendant les fêtes. Hein.
Oui, parce que parfois on cumule les deux. On va manger un peu plus. Du coup, on va être en excès. Et en plus, on va manipuler des aliments qui vont être plus fragiles qu'à l'état normal. Des œufs, de la viande, du poisson, des fruits de mer, de la charcuterie. Et donc, toute erreur pourra se payer cash dans votre ventre.
Se payer cash, alors justement, il peut y avoir la petite indigestion, et j'ai l'impression que décrit Geoffrey avec la langouste du Noël dernier, mais il y a aussi les grosses intoxications. C'est quoi la différence entre les deux?
Alors, l'indigestion, c'est plutôt un inconfort.
Ouais.
Vous n'avez pas l'habitude de manger en aussi grande quantité, ou en tout cas un type d'aliment. Vous allez avoir un apport massif en graisse. Vous allez vous sentir ballonné et avoir un peu de diarrhée, mais qui va survenir secondairement, le lendemain, le surlendemain. Alors que l'intoxication alimentaire, vous allez ingérer un aliment qui ne passe pas,
qui a varié,
et donc à ce moment-là, vous allez rapidement avoir des signes digestifs, et surtout, autour de vous, tout le monde va être malade. Parce que si jamais il y a une intoxication alimentaire, c'est qu'il y a une infection, et donc si
une
vous l'ingérez...
Une bactérie, par exemple,
exactement,
qui était dans des huîtres ou je ne sais quoi, ouais, c'est ça?
Eh bien exactement. Alors, le plus fréquent, c'est des infections plutôt virales. Le virus le plus fréquent, c'est le norovirus. Mais vous pouvez aussi des infections bactériennes, comme la listeria, le campylobactère, des salmonelles, qui vont vous donner des symptômes digestifs qu'on va tous partager. Et puis quand on appelle les gens au fur et à mesure, ah bah oui, bah moi aussi j'ai ça.
Quand
bah
c'est groupé,
aussi.
C'est intoxication
et
en
oui.
général.
Et donc là,
hein,
on peut, de bon cœur, accuser la belle-mère qui nous a fait ce repas, qui voulait nous intoxiquer.
Alors justement, quels sont les symptômes? Là, je plaisante un peu, mais quels sont les symptômes qui doivent alerter, dire, donc vous avez dit, si tout le monde est plusieurs, déjà, ok, mais ça va être quoi? Diarrhée, vomissement, et puis, je veux dire, c'était la fraîcheur des huîtres, peut-être en compte? Non, c'était le virus ou la bactérie, mais le signe vraiment qui fait peur, c'est lequel?
Alors, tout d'abord, donc vous allez avoir des signes digestifs qui vont être différents en fonction des personnes. Certains vont avoir simplement des vomissements, ils vont rapidement vomir l'aliment. Parce que
rapidement, c'est au bout de combien de temps?
En moins d'une heure.
Ah oui,
certains
ça va vite.
Ont
ouais.
une forme de détecteur à intoxication alimentaire, j'en fais partie.
Ça
dès que je sens qu'un aliment
parce que
ne
c'est
passe
pas, bon, c'est ça.
Je vais vomir et ça va mieux. Parce
ouais.
que en fait, normalement, quand vous avalez un aliment, votre estomac
vous,
doit digérer.
Vous, je crois que c'est une histoire de thon avarié.
Oui,
hein,
de thon avarié qui avait une sale tête et que ma femme m'a fait manger. Il était vert.
Ouais.
Et j'ai dit, mais pourquoi il est vert? Elle m'a dit, mais c'est des olives, donc mange
du
ce thon.
Du thon aux olives, oui.
Exactement, mais il
non,
était avarié.
C'était du thon moisi, quoi.
Et donc,
ouais.
si vous vomissez rapidement, eh bien, vous débarrassez du corps étranger. Ça n'a pas le temps de passer la barrière avec le duodénum. Et donc, vous n'avez pas de diarrhée. Mais chez certains, vous n'allez pas vomir tout de suite. Et donc, ça va passer l'estomac, le duodénum, l'intestin. Et donc là, vous allez avoir des douleurs abdominales, des crampes,
là,
de la diarrhée très liquide. Et parfois, en fonction de la bactérie ou du virus, vous pouvez avoir du sang dans les selles et de la température. Et certaines infections peuvent être graves.
J'allais vous dire, là, ça a l'air grave ce que vous décrivez, du sang dans les selles, de la température. Là, il faut consulter absolument. Parce que bon, des intoxications, on peut en avoir, ça passe à peu près tout seul.
Alors,
mais quand est-ce qu'il faut consulter ?
Il y a deux éléments à surveiller. Le premier, c'est le terrain sur lequel ça survient. Si jamais vous avez une personne âgée autour de vous qui est polypathologique, qui du coup a cette intoxication alimentaire, elle va du coup se déshydrater beaucoup plus rapidement. Et donc, ça peut être plus grave. Même une banale intoxication alimentaire.
Ou un enfant petit aussi.
Ou
non,
même un enfant, exactement. Et puis, vous avez aussi la bactérie ou le virus qui vous a infecté. Si c'est un petit staphylocoque, c'est pas très grave. En règle générale, vous avez la diarrhée, l'espèce de tourista et ça passe. Mais vous avez d'autres infections comme la listeria monocytogène. C'est simplement 0,1% des infections. C'est extrêmement rare. Mais c'est 25% des cas de mortalité. Puisque c'est une infection bactérienne très sévère. Et donc, évidemment, si jamais vous avez du sang dans les selles, une forte température, que ça ne s'améliore pas ou que vous êtes un terrain à risque, eh bien là, évidemment, il faut consulter.
D'accord. Et pour éviter tout ça, peut-être que vous avez quand même quelques conseils. On aimerait passer des fêtes digestivement tranquilles.
Eh oui, attention avec le stockage des aliments. La cuisson, souvent, elle est inappropriée. On n'hésite pas à bien cuire les aliments. Et puis, dans la date de péremption, il faut quand même jeter un coup d'œil que la crevette qui est emballée sous vide, elle soit fraîche, exactement. Et puis, attention à la chaîne du froid. Souvent, l'erreur est commise là.
Les restes du lendemain. Les crevettes qui sont restées dehors, on les mange
pas.
Vous
les mettez au frais, si possible. Et puis, attention, quand vous allez faire vos courses, souvent, on les met dans un petit sac plastique. On va faire les courses et puis on va acheter du pain et puis on va acheter du fromage et puis on arrive à la maison.
Là, on brise la chaîne du froid.
Exactement. Et là, les huîtres sont un réserve à bactéries et donc un réserve à vomi.
Oh, merci beaucoup, Jimmy, pour cette conclusion, pour tous ces conseils très clairs. Et donc, on a compris, on sera tranquille grâce à vous digestivement. Merci.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Tout de suite, Jimmy va vous lire la question de Sandra.
Bien sûr, depuis MeToo, j'ai l'impression que les hommes ne veulent plus faire le premier pas. Je n'ai pas été élevée comme ça, je préfère au contraire quand c'est lui qui prend les devants. Vous en pensez quoi ? C'est vrai, Catherine, qu'avec le phénomène MeToo, est-ce qu'on peut parler d'effets négatifs ? C'est maladroit de ma part, je le reconnais, sur la drague des hommes vis-à-vis des femmes ?
Ah, ça a exposé, ça oblige les femmes à s'exposer dans leur désir, ça c'est sûr, parce que jusqu'à présent, c'était l'homme propose, la femme dispose. Proposer toujours, pas toujours élégamment et de façon bienveillante, bien évidemment, mais en attendant, il y avait de la proposition qui était possiblement refusée ou au contraire, auquel la femme adhérait. Là, tout d'un coup, il faut que cette femme, là en l'occurrence pour Sandra, qu'elle s'expose puisqu'elle a l'impression que les hommes ne la draguent plus, ne se montrent plus et du coup, il lui faut se révéler sans trop savoir qui pourrait la désirer en retour ou pas. Donc c'est évidemment, pour la majorité des femmes, une chose un peu compliquée, parce qu'une femme qui était désirante était une femme trop ouverte, voire une salope, pardonnez-moi cette expression. C'était bien pour ça que les femmes se faisaient discrètes et puis prenaient le temps et de réfléchir les avances qui leur étaient faites sans, et répondaient au désir plutôt qu'exprimer, être animée à elle-même de désir. Donc c'est vrai que c'est une situation complexe auxquelles les femmes aujourd'hui sont confrontées.
Mais vous pensez, Catherine, comme le dit Sandra, que les hommes ne veulent plus faire le premier pas. Il ne faut pas exagérer, en général, jamais. Il y a toujours des hommes qui le feront. Mais vous pensez que ça a changé quelque chose ? Certains hommes qui auraient fait le premier pas, avec élégance, bien sûr, parce que ça, il n'y a pas question de dire que tous les hommes sont des gros lourds. Mais certains se sentent frustrés désormais, n'osent plus, ont peur de le faire ?
Oui, je dirais qu'en réalité, les choses ne changent pas. Les hommes, heureusement, vont continuer à draguer les femmes et s'exprimer très tranquillement selon leur élan personnel. Ceci étant, il y a certaines femmes qui n'en profiteront plus parce que de toute façon, elles auront un regard méfiant et face à ces femmes, ils vont percevoir, pour ceux qui sont normalement constitués, ils vont percevoir justement la défiance et du coup, ils resteront à l'écart en attendant le feu vert de la dame. Or, évidemment, si elles sont simplement en défiance sans mettre de
si
feu vert,
si tout le monde attend, il ne se passe rien.
Il ne se passera rien. Ouais. Pour d'autres, ils seront tout à fait normaux face à des femmes qui seront très accueillantes et très naturellement accueillantes. Et pour tous ceux qui étaient justement plutôt pervers, ils vont continuer à l'être. Et donc, il faut savoir, parce que c'était dans leur nature de fonctionner et dans leur difficulté à prendre du recul. Pour certains d'entre eux, ils se surveilleront un peu, mais ils auront cette nature. Et c'est toujours aux femmes de veiller à leur propre sécurité, leur propre sauvegarde.
Est-ce que le compliment d'hier, avant MeToo, peut devenir une forme de harcèlement ou quelque chose qui est mal vécu par les femmes ? Je ne sais pas si on complimente une femme sur sa tenue. Est-ce que ça peut être mal vécu aujourd'hui ? Est-ce que ça se fait encore ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de ne plus avoir aucun code. Alors que parfois, ça part pas d'une mauvaise intention.
Oui, c'est vrai que c'est un débat qui mériterait vraiment beaucoup plus que le temps de notre chronique, parce que c'est un débat où c'est au millimètre en réalité, effectivement.
Quand vous me dites, Mélanie, tu es très élégante aujourd'hui, vous devriez ajouter « et brillante » et « intelligente ». Ça passe bien comme ça, non ?
Oui, c'est mais il faudrait juste commencer par le dire, rien que le début, Mélanie, et ça, il y a encore un peu de travail.
C'est ça, et très élégante ne veut pas du tout dire que c'est du tout à aucun moment du harcèlement. Pour autant, évidemment, selon qui le dit, comment c'est dit, et puis surtout qui le reçoit, c'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui a peur des hommes, qui a peur du désir, qui a peur du désir des hommes, qui a été déjà brusqué dans ma vie, eh bien le « tu es belle » qui me renvoie à moi et ma peur de m'être habillée peut-être trop féminine ou peut-être trop provocante, eh bien va me laisser penser que c'est une agression qui m'est faite, alors que ça sera dit très gentiment. En fait, toute la difficulté de l'histoire, ce n'est pas tellement les propos, c'est ce que veut dire le propos par qui parle et de qui parle et qui le reçoit. Or, il y a autant, pour la même phrase, il y a autant d'histoires, il y a autant de cerveaux, il y a autant de projets, il y a autant d'enjeux. Et donc, c'est extrêmement complexe. Il va bien falloir que les uns et les autres, nous osions, et pour Sandra, qu'elle apprenne aussi à exprimer son désir et pas à être là, assise, à attendre qu'un homme passe.
Elle a un côté un peu femme soumise, c'est ça que vous voulez dire ? Enfin,
pas soumise, mais qu'elle ait été éduquée comme ça, on le comprend très, très bien.
Classique, alors, plutôt, c'est le terme.
Ouais. Peut-être, mais encore, il n'y a pas de jugement là-dessus. La seule chose, c'est qu'elle ne peut pas passer son temps à souffrir au prétexte d'une éducation. Il lui appartient aussi d'élargir le champ de ses possibles si elle a envie d'être vue comme étant désirée et désirante, désirable et désirante. Mais ce n'est pas parce qu'on est éduqué d'une certaine manière qu'on ne peut pas bouger ses lignes. Pour autant, bien sûr qu'il faut tous retrouver nos repères et nous accorder des repères différents les uns avec les autres, parce que c'est vrai, c'était important que l'on dénonce des choses qui n'étaient pas acceptables. C'est important à deux titres, que les hommes apprennent qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et aussi que les femmes comprennent bien qu'elles ont un droit de veto. Mais maintenant, ceci étant dit, il appartient aux deux sexes de trouver leur mouvement et la liberté de leur mouvement. Il n'est pas question de castrer les hommes de leur pouvoir de séduire et de dire ce qui les émerveille chez une femme qu'ils rencontrent. Pas plus question pour une femme d'attendre, de s'éteindre ou d'être à juger le masculin, sans quoi elle va elle-même perdre ce qu'elle voudrait absolument quérir.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. On se retrouve demain dans ce rendez-vous. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Et moi, je vous dis à demain.